فيمينا. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOA Afrique, Le Monde au Féminin. Nathalie Barge pour vous présenter des infos, dossiers et reportages relatifs à la jeunesse et aux femmes.
C'est dans la presse.
Les forces de sécurité de Guinée font face à l'indignation après la diffusion d'une vidéo les montrant se servant d'une femme comme bouclier lors de troubles à Conakry. Le principal protagoniste de la scène a été arrêté. La vidéo, situant la scène le 29 janvier à Wanidara, montre quatre policiers casqués faisant face à des jeunes lanceurs de pierres, dont des enfants. L'un d'eux pousse et tire une femme devant lui. En fin de vidéo, il la traîne au sol en fuyant avec les autres. Fatoumata Taba dit avoir été interceptée alors qu'elle revenait de l'hôpital et que les policiers l'ont fouillée, bousculée et jetée à terre. Les jeunes du quartier se sont alors mobilisés, suscitant la confrontation filmée, dit-elle. Le brigadier a dit de son côté que le quartier était la proie de heurts et qu'il l'a attrapée pour la protéger des violences. Mais le directeur général de la police a rappelé que la vidéo montre clairement qu'il s'abrite derrière la femme, donc il n'y a pas de confusion possible, a-t-il dit, assurant que le policier répondra de son acte. L'actrice marocaine Mariam Touzani a réalisé son premier film Adam, qui se penche sur le tourment des mères célibataires dans une société qui les considère comme des parias. Elle raconte la rencontre entre une femme célibataire enceinte et une mère de famille. Au départ étrangère, voire hostile l'une à l'autre, elles vont être amenées à se comprendre et à évoluer. Ce film aborde le sujet des relations sexuelles hors mariage, punies par la loi au Maroc. À l'époque des faits, si une femme célibataire accouchait à l'hôpital, elle était aussitôt livrée à la police, avait déclaré à Cannes en mai dernier Mariam Touzani, évoquant le jour où ses parents avaient ouvert la porte à une jeune femme enceinte rejetée par la société.
Parole de femme.
Frustrée par un taux élevé d'agressions sexuelles, l'insuffisance des forces de l'ordre et les tabous tribaux qui empêchent les gens de parler de la violence sexiste, certaines femmes nigérianes rompent avec la tradition pour suivre des cours d'autodéfense. Un groupe local de défense des droits humains et un entraîneur de boxe se sont associés pour leur offrir une formation gratuite. Blanche Sanou nous en dit plus.
Les mains enveloppées et fourrées dans des gants de boxe, les étudiantes ont rapidement rempli le gymnase. Les instructeurs de boxe et de karaté enseignent à Olamide et à une vingtaine d'autres élèves les techniques de base du blocage, de la frappe et de l'évasion dans ce cours de 2 heures qui est proposé chaque semaine à toutes les femmes désireuses de sortir de leur zone de confort culturel.
C'est étrange et inhabituel d'entendre cela, voir une femme qui veut se défendre si elle se trouve dans une position où elle doit le faire. Personne ne va vous écouter. Ils trouveront simplement que tu n'es pas une femme soumise ou que tu es devenue féministe à cause de l'influence négative des choses qui se passent dans le monde. Ils diront qu'en Afrique, nous ne faisons pas ça.
L'étudiante avoue être remplie de peur et de honte lorsqu'elle a été agressée pour la première fois chez elle. Mais la menace a continué et elle a décidé d'apprendre les techniques nécessaires pour repousser un agresseur. Encouragée par le groupe de défense des droits de l'homme Women Impacting Nigeria et son entraîneur, Olamide a très vite repris confiance en elle-même.
Ça m'a vraiment ouvert les yeux. J'aime le fait que je puisse me protéger. Et aussi, je veux contre-attaquer. Je pourrais réagir rapidement, donc les choses se passent plutôt bien.
Le Nigeria est le 9e pays le plus dangereux au monde pour les femmes, selon un rapport de 2018 de la Foundation Thomson Reuters. À cela s'ajoutent les pesanteurs sociales et culturelles qui empêchent les femmes de dénoncer les agresseurs et même se défendre.
Lorsqu'il s'agit de femmes qui s'impliquent dans tout ce qui a trait au physique, en particulier le sport de combat et la défense, il y a un tabou. Ce tabou vient du fait que les pressions sociales, les perceptions environnementales et aussi les femmes elles-mêmes ne croient pas qu'elles puissent réellement atteindre cet objectif, devenir compétentes en matière d'autodéfense.
Les médias nigériens sont inondés d'histoires horribles de femmes et de filles enlevées et trafiquées à des fins d'exploitation sexuelle et de travail. Aussi, selon les défenseurs des droits de l'homme, l'application de la loi pour la protection des femmes est inadéquate.
Le gouvernement mauritanien veut relever le défi des violences conjugales, notamment à travers une campagne avec le concours de la société civile. Mais il semble difficile de convaincre dans une société conservatrice où, selon une étude, un quart des femmes sont conditionnées à ne pas condamner ces violences. Mais heureusement, certaines victimes osent parler pour inciter les autres à briser le silence, comme dans ce reportage de Mohamed Diop.
À 26 ans, elle déserte le domicile conjugal et se réfugie chez ses parents pour fuir un mari violent.
J'étais enceinte. Il me battait jusqu'à provoquer mon avortement. Il me frappait à l'abdomen.
La jeune dame sera détenue 3 jours à la police sur accusation de vol par son mari.
Il me faisait du chantage. Il disait, si tu n'acceptes plus de vivre avec moi, je t'amènerai à la police. Là-bas, j'ai des amis. Je vais leur dire que tu as volé mes 25 millions et tu seras déféré à la prison des femmes.
L'État ne dispose pas de chiffres sur les violences conjugales, mais les dernières statistiques de l'Association des femmes chefs de famille, AFCF, fait état de plus de 2000 victimes en 2018. La plupart n'ont pas obtenu justice.
Parce qu'il n'y a pas une loi de référence pour cette catégorie de violence faite aux femmes, qui est la violence conjugale.
Seuls quelques cas de violence conjugale ont été traités, parce qu'il y a coups et blessures graves. Mais les ONG dénoncent une procédure qui mène directement vers le CADI, le magistrat du département, sans passer par la police.
Une femme blessée par son mari ou battu par son mari doit avoir le droit à une réquisition pour se soigner et le droit à un procès verbal de la police pour aller devant le procureur de la République.
Aujourd'hui, le combat des ONG féminines est de faire voter une loi contre les violences faites aux femmes, dont celles conjugales. Mais le texte a été rejeté au Parlement qui le juge non conforme à la charia, la loi islamique. Mohamed Diop pour VOA Afrique, Nouakchott.
Au Nigeria, 5 enfants, dont 2 filles kamikazes, sont morts dans 2 attentats distincts le 30 janvier près de Maïdougouri, dans le nord-ouest du pays, où des enfants sont utilisés par les djihadistes pour des missions suicides. L'un des attentats a eu lieu dans une école coranique en plein air à Mounadalti, dans l'état de Borno. Une fille d'une 12 ans s'est approchée du groupe de garçons et sa charge a explosé, tuant 3 d'entre eux et en blessant 4 autres. Un peu plus tôt, une autre fille aussi jeune a été tuée dans l'explosion de sa charge après avoir fait irruption dans une maison proche, blessant 1 personne. Dans le nord-est du Nigeria, Boko Haram envoie de force des filles en mission suicide, les garçons étant généralement enrôlés pour le combat.
Si jeunesse pouvait.
L'insertion des jeunes diplômés dans le monde professionnel au Sénégal est un problème majeur. Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, environ 14% des jeunes diplômés sont au chômage. L'État et les entreprises ne recrutent pas suffisamment et trouver un stage rémunéré est même devenu un parcours du combattant pour des jeunes qui ont pourtant les diplômes requis, selon notre correspondant à Dakar, Sedina Abagué.
Licence, master, doctorat, les étudiants sénégalais passent tous les échelles du système LMD sans pour autant avoir la garantie de trouver un emploi à leur sortie des universités et instituts de formation professionnelle. Certains sont d'ailleurs obligés de se tourner vers des métiers qui n'ont rien à voir avec leur formation initiale. Alimatou Sadia Ndiaye est titulaire d'une licence, mais elle a eu toutes les peines du monde avant de trouver un stage.
Moi, je fais un travail qui ne demande même pas le diplôme de fin d'études moyennes, juste pour dire combien il est difficile de trouver du travail. Malgré une prime de transport de 25 000 par mois, j'arrive même pas à combler le prix mensuel de mon transport. Et ceci, malgré une formation qui a coûté très cher à mes parents. Sur ce, je pense que l'État du Sénégal a quasiment raté sa politique de l'emploi. Parce qu'au terme de notre formation, rare de nos promotions ont réussi à avoir un stage. Un contrat de travail, n'en parlons même.
Un avis que ne partage pas totalement Yacine, cette titulaire d'un Master 2 en marketing, estime que l'État fait de son mieux et que les jeunes devraient trouver des alternatives pour assurer leur avenir professionnel.
Je dirais que l'État nous a même offert des opportunités, à savoir les concours d'État et autres. Si c'est moi qui ai pris un peu de recul pour voir si j'arriverai à m'intégrer dans la fonction publique déjà. Sinon, je vais faire recours à ma formation professionnelle. J'ai même des projets d'entrepreneur. C'est-à-dire être dans le freelance, lancer mes propres projets, comme je suis déjà marketeur. Je ne pense pas que l'État puisse donner le plein emploi en l'espace de 5 ou 10 ans. Ce n'est pas possible. Il y a trop de jeunes diplômés ici au Sénégal. Il ne faut pas tout attendre de l'État.
L'État ne peut certes pas tout faire, mais il doit s'associer au patronat pour trouver des solutions afin d'asseoir une bonne politique concernant l'emploi des jeunes. C'est l'avis du professeur Amadou Fall, pour qui ce phénomène s'explique par une maladresse dans le système de management des employeurs.
Cela peut s'expliquer par les politiques des entreprises parfois qui ne lâchent pas les retraités partir et embaucher les jeunes à la place de ces personnes. Ça peut s'expliquer par l'expérience que ces gens-là ont, mais à mon niveau, ça ne s'explique pas parce que toute expérience a un début. Donc, moi, je pense qu'ils peuvent donner de la chance à ces jeunes-là parce que la remarque, c'est que ces jeunes-là, quand ils sortent dans la sous-région, ils sont tout de suite embauchés, ils sont tout de suite employés. Mais au niveau national, au niveau local, le problème qui se pose, c'est juste la politique de l'État par rapport à ce fléau, aussi la politique des entreprises, par ricochet l'État toujours. Cette politique-là, il faut la changer d'abord, mais aussi encadrer ces jeunes-là, leur donner la chance de pouvoir rester dans le cadre professionnel dont ils ont déjà évolué par rapport à leur formation.
Selon des experts, pour assurer l'employabilité des jeunes, il faudrait que les formations académiques soient adaptées aux offres d'emploi, mais il faudrait surtout que l'État et le patronat revoient ensemble et en profondeur leur politique d'embauche afin de garantir aux jeunes diplômés des emplois en phase avec leurs compétences. À Dakar, Seydina Bagay pour VOA Afrique.
L'armée sierra-léonaise organise régulièrement des séances de yoga pour aider ses soldats à faire face aux traumatismes de la guerre civile. Une pratique qui, avec le temps, s'est avérée bénéfique pour de nombreux anciens enfants soldats, aujourd'hui adultes, mais toujours hantés par les démons du passé. Arzuma Compaoré nous en dit plus.
Le soldat de première classe, Michael Karkbo, dit qu'il n'a pas réussi à oublier les souvenirs douloureux de son enfance dans la guerre civile en Sierra Leone, jusqu'au jour où il a découvert le yoga.
Je suis traumatisé, mais je suis maintenant capable de me contrôler grâce au yoga.
L'armée sierra-léonaise organise régulièrement des séances de yoga pour aider les soldats à faire face au traumatisme du conflit de 1991 à 2002 qui a tué environ 50 000 personnes. C'est à l'âge de 12 ans que Karkbo a été kidnappé par des rebelles.
Nous avions des garçons qui avaient tué leur mère et leur père avant même d'avoir l'âge de 12 ans. C'est à cet âge-là qu'ils m'ont amené et je suis resté avec eux jusqu'à ce que je grandisse. Je n'avais personne pour m'aider ou m'encourager et personne pour m'aider à retrouver une vie normale. Personne. J'ai continué à me battre avec eux, accumulant des traumatismes et tuant des innocents. Aujourd'hui, Karkbo est
près d'environ 100 militaires, hommes comme femmes, au quartier général de l'armée à Freetown, aux côtés de l'homme qui a persuadé ses supérieurs sur les avantages du yoga, le sergent Félixon Moussa.
Vous vous créez vos propres problèmes et après vous blâmez les gens. Pourquoi faites-vous cela?
Moussa a été lui-même formé par Tambia Faya, un autre ancien enfant soldat, qui est devenu le premier professeur de yoga qualifié en Sierra Leone en 2012. Ensemble, ils ont donné des cours de yoga gratuits dans les bidonvilles de Freetown. Mais en 2014, Faya est décédé, victime de l'épidémie d'Ebola qui a ravagé le pays. Moussa s'est alors résolu à poursuivre l'œuvre de son professeur.
Tu sais, lorsque je fais du yoga, je ne pense plus à ce qui s'est passé. Je pense au moment présent. C'est ce que je leur dis toujours. Oubliez le passé. Je sais que vous avez beaucoup souffert et pendant assez longtemps. Pensez à ce que vous êtes en train de faire.
Au cours de la prochaine année, Moussa espère pouvoir étendre le programme de yoga à des urgentistes, des employés d'hôpitaux et d'autres personnes qui pourraient avoir du mal à faire face à des expériences traumatisantes.
Mais oui, et c'est la jeunesse prouvée.
Le gouvernement espagnol a annoncé le 31 janvier la nomination d'une femme à la tête des services de renseignement, une première dans le pays. L'actuelle directrice par intérim, Paz Esteban López, succède à Félix Sanz Roldán. Madame López a débuté sa carrière dans le renseignement en 1983. Ce choix du nouveau gouvernement espagnol succède à une série de nominations féminines à la tête de grands corps de l'État. Le 17 janvier, une femme a aussi été nommée pour la première fois à la tête de la garde civile espagnole. María Gámez, qui était sous-préfète de la région de Malaga, arrivée au pouvoir en juin 2018, Pedro Sanchez a fait du féminisme un des piliers de l'action de son gouvernement qui compte actuellement autant de femmes que d'hommes.
Entre parenthèses.
En Afrique du Sud, les femmes se marient plus tard. 32 ans est l'âge moyen pour un premier mariage contre 30 ans il y a 5 ans. C'est une tendance mondiale des pays développés. Un constat à retenir, plus le mariage est tardif et plus le niveau d'éducation et le revenu des femmes augmentent. Les précisions avec Arzuma Compaoré.
Un peu partout dans le monde, les femmes ont tendance à retarder leur mariage, y compris en Afrique du Sud, où l'âge médian d'une mariée est de 32 ans et augmente. Samina Anwari, une créatrice de contenu en ligne de 33 ans, prévoit de se marier en décembre et a été surprise des réactions lorsqu'elle a annoncé la nouvelle.
J'ai obtenu mon diplôme et j'ai un emploi. J'ai réalisé toutes ces choses. Mais quand j'ai dit aux gens que je me mariais, cela a produit une réaction de joie que je n'avais encore jamais vue. En fait, j'ai éclaté de rire en les voyant.
Pour les jeunes femmes professionnelles d'Afrique du Sud comme Luendo Hamukoma, 32 ans, le mariage n'est pas une priorité absolue.
Tu te maries, tu finis l'école, tu as des enfants, ça c'était le symbole d'une vie réussie. Pour moi en revanche, c'est une vie complètement différente. Aller à l'école, se découvrir soi-même, trouver un emploi qui vous rapporte un salaire décent, ce genre de choses. Et trouver comment vous améliorer en tant que personne, le mariage ne fait pas partie du plan.
La psychologue Cinco Bill et Levia voient davantage d'indifférence envers le mariage.
Je vois beaucoup de Brad Pitt et d'Angelina Jolie. En fait, nous préférons simplement vivre ensemble, fonder une famille si nous le voulons. Si nous ne le voulons pas, c'est bien aussi.
Le site web de comparaison des prix, Pricenomic, a analysé les données mondiales sur le mariage et trouvé une corrélation claire. Plus le revenu du pays est élevé, plus tardive est la décision de se marier. La sœur cadette d'Amukoma, Chipo, une économiste qui n'est pas non plus mariée, dit avoir vu des données similaires en Afrique australe.
En tant qu'économiste, les statistiques pour les femmes mariées, c'est que votre santé baisse, votre salaire baisse, le stress augmente, votre malheur augmente. De façon empirique, il ne semble pas y avoir beaucoup de cas, car les femmes célibataires sont statistiquement plus heureuses et plus riches. Il faudrait que ça soit un très bon mariage.
La créatrice Anwari, qui prévoit de garder son nom de famille, dit que pour bon nombre de ses pères, le but, ce n'est plus le mariage, c'est le bonheur.
Charity Salima, la fondatrice d'une maternité malawite pour femmes à faible revenu, a annoncé un bilan positif depuis son ouverture en 2008. La clinique communautaire Ashikondi a enregistré plus de 8800 nouveau-nés en vie et en parfaite santé, ainsi que leur mère. Elle a été surnommée Florence Nightingale du Malawi, en reconnaissance à ses efforts visant à améliorer l'accès à un accouchement sans danger et aux soins modernes dispensés dans son établissement. Blanche Sanou nous en dit plus.
Grace a donné naissance en novembre dernier à un bébé en bonne santé, son quatrième enfant, à la clinique communautaire Ashikondi. Depuis 2008, cette maternité a pour ambition d'aider les femmes qui n'ont pas assez de moyens à accoucher en toute sécurité. Depuis lors, la clinique a effectué plus de 8800 accouchements avec succès, sans perte de mère ni d'enfant, selon sa fondatrice. C'est un record remarquable au Malawi, un pays où, selon le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, le taux de mortalité moyen pour 1000 naissances est de 22 décès pour les bébés et 6 pour les mères.
Il y a une grosse différence. Les hôpitaux publics sont encombrés. Les femmes accouchent par terre et parfois une infirmière est responsable de 3 femmes enceintes. Cela compromet la santé des mères et des enfants. Mais ici, j'ai reçu un bon traitement.
Les chiffres de l'accouchement réussi fournis par la clinique signifient que l'établissement bat non seulement la moyenne mondiale de 17 décès de nouveau-nés pour 1000 naissances, mais également la moyenne des pays riches. En Grande-Bretagne cette année, Charity Salima a reçu le prix Point of Life du Commonwealth pour ses efforts dans la lutte contre la mortalité infantile.
Tout ce succès est arrivé parce que nous arrivons à prendre en charge les complications le plus tôt possible. La détection précoce de toute anomalie et la réponse adéquate aux besoins, c'est ce qui nous a permis de réussir.
Les soins sont gratuits et le bâtiment a été construit grâce aux dons de l'Écosse et de la Norwegian Nurse Organization. La fondation caritative Freedom from Fistula, basée aux États-Unis, intervient aussi en cas de traitement des blessures liées à l'accouchement et finance le dispensaire.
Chères auditrices, chers auditeurs, le monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel, juste après les nouvelles. Sur notre site internet, visitez aussi voafrique.com/LMF pour consulter nos articles, vidéos, interviews et les autres éditions déjà parues. C'était Nathalie Barge avec vous. On reste en contact. Bon courage et à très bientôt.
Arrête.